C'est la bande originale sur France Inter. Bonjour les amis.
Bonjour. C'était le journal de Laetitia.
Elle ronronne.
On l'a caressée sous le menton là. Elle tend le menton là.
Laetitia Gaillet reviendra à midi pour vous informer. À tout à l'heure, Laetitia. C'est la bande originale sur les avec Leïla, Chabot-Dazi, Morgane, Salim, Guillermo, Guiz, Tanguy Bassiouro, Daniel Morin et notre invité Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, son nouveau roman, déjà on l'avait reçu pour le premier qui a été un énorme succès quand elle était venue jouer avec sa commode.
Multicolore.
C'était pendant le confinement.
C'était pendant le confinement,
je crois. Je crois.
La commode au tiroir de couleurs, en tout cas, qui a dépassé le 500 000 de lecteurs.
C'est trop,
elle publie son... C'est gênant. Elle publie son nouveau
pour
roman.
Pour les autres, surtout.
Qui s'appelle ça, ouais. Écoute la pluie tomber. Et là, encore une fois, elle part dans les années 70 au milieu de sa famille et des histoires de sa famille.
Pardon. Non, mais elle est là qui vit sa vie, là. Elle range son sac à main.
Ok, voilà, d'accord. Tout ça dans les années 70. Je vais y arriver, je m'en fous, je me concentre.
Je t'écoute, je suis confuse.
Écoute la pluie tomber chez Lattès. Quel blind test donc ?
Morgane ?
Oui.
Orelsan ? Et Stromae ?
Non,
Stromae. Oui,
oh là là !
Tu peux récupérer un quart de point ?
Il a réussi.
C'est fou, hein ? Il est mauvais, toi.
J'ai cherché Guillermo avant, c'était un être d'amour.
C'est vrai, il était dans le partage.
Ah
oui. Il est dans la haine.
Et ça s'appelle comment ?
La pluie. Il fait beau. Il fait beau. C'est comment ? Il fait beau, hein ?
Qui chante ça ?
Guigui.
Guigui.
Victor Laszlo.
Non.
Tanguy,
non.
Blues trottoir.
Un soir de pluie.
Je demande à la régie d'intervenir.
La régie ?
Et de brouillard.
Pourquoi Victor Laszlo ?
Je trouve ça
ressemblait.
Canoë
rose. Ouais. Oh là là.
C'est vrai, ça ressemblait.
Ah ouais.
Merci Tanguy.
Ouais. J'étais amoureux de Victor Laszlo.
Point pour Morgane.
Super.
Elle chantait bien.
Ouais.
Et elle était mannequin, je crois.
Ouais. Elle est qui c'est, Victor Laszlo ?
Oui.
Elle est autrice aussi.
Elle se prend une d'alcool aussi.
Je crois que c'était elle qui était dans le clip d'Axel Bauer, Cargo de Nuit.
Ouais, exactement.
C'était elle qui jouait. Un point pour Morgane. Un point pour Tanguy Pastureau. Qui chante ça ?
Tanguy ?
Oui.
Sacha Distel ?
Ça s'appellerait comment ?
Toute la pluie tombe sur moi.
Oh là là.
Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je la sens.
Qu'est-ce que c'est bon ? Il croonait quand même, hein.
Ah, il envoyait.
Ouais.
Ah ouais. Moi j'adorais. Oh la belle vie.
Ouais.
Oh la belle vie. Qui chante ça ?
Tanguy ?
Oui.
Ah, Prince. Merde. Purple
Rain.
Vous avez vu comment je cartonne sur la pluie en tant que breton ? Je les ai tous.
Bien joué.
Je suis étonné que la Belgique ne réagisse pas plus que ça.
Un pays de soleil.
J'essaie de réagir, bien sûr. Je suis pris de vitesse par la Bretagne.
Je suis à la pluie sur la
bière. Qui chante ça ?
Leïla. Morgane. Juliette.
Oui. As-tu dit que Juliette ?
Juliette quoi ?
C'est la reine.
Juliette Armanet.
Ah ! Je croyais la chanteuse Juliette.
Moi aussi.
Pardon.
Que du feu, ce sera merveilleux. L'amour inassouvi s'effacera sous la pluie. Je n'y verrai que du feu, ce sera merveilleux.
Vous avez donc saisi le thème ?
C'est beau, hein ?
La pluie.
Merveilleux.
Qui chante ça ?
Marco.
C'est Juliette.
Oui, pardon, deux fois. Qui chante ça ?
Morgane.
Ah
ouais, Leïla.
Guy.
Piat d'Adora.
Et
Jermaine Jackson.
C'est si vieux que ça, quoi.
J'ai démarré un petit cours de step.
T'as été DJ, hein ?
Sacha Distel, j'avais moins l'occasion de le jouer.
Pourquoi ?
Oh bah pour que les gens partent. Quand tu rallumes les lumières.
Arrêtez de blasphémer.
Imagine que pour fermer une boîte, tu envoies toute la pluie tombe sur moi. Je pense que tu la vides rapidement la boîte. Qui chantait ? Attends, oh là là, attention. On arrive au dernier titre. Oui.
Déjà,
trois points pour Tanguy. Un pour Leïla, un pour Morgane, un pour Guillermo. Bah Daniel, t'attends le super banco ?
Ouais, je pense.
Non, je me suis fait bananer.
Tout se joue maintenant.
Tanguy ?
Oui.
Creedence Clearwater Revival.
Oh là 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 là
là. C'est classe.
C'est très très fort.
Ah, c'est beau.
Et la pluie qui tombe de Daniel Darp, tout le monde s'en fout, quoi.
Oui.
Juste la plus belle chanson.
Ça, j'adore. Okay.
ça c'est formidable. Eh,
franchement, autant j'aime pas Tanguy normalement, mais là franchement c'est super ce qu'il y a à faire. C'est très fort.
Merci.
C'est bien joué Tanguy.
Mon pauvre Tanguy.
Et mieux c'est qu'il a pas chanté la pluie
La bière, beaucoup.
Je connais pas sa chanson, il pleut de la bière.
Mika, il a chanté la pluie.
Oui.
Qu'est-ce que c'est bon ce tour. Have you ever seen the rain? Kidansk et Water Revival, victoire de Tanguy, pas sûr, et merci d'accueillir Olivia Ruiz.
La bande originale avec Nadie.
Aïe aïe aïe.
Écoute la pluie.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Pourquoi je ne sais pas. C'est lundi.
Tu veux que la prochaine fois on fasse des you-you quand tu rentres dans le... D'accord, ok. Écoute la pluie tomber. Bienvenue Olivia. Vous
merci.
Nous emmenez, vous nous embarquez dans cette histoire familiale. On retourne à Marseillette. Mm-hmm. Avec une nouvelle triste pour l'ouverture, parce que c'est peut-être même ce qui a été déclenché, peut-être l'envie de raconter cette histoire. L'histoire d'une maman qui donne la vie et qui perd la vie en la donnant.
Oui, c'est vrai que le livre s'ouvre sur le plus grand choc de l'héroïne qui pourtant va en connaître quelques-uns dans sa... dans son existence.
L'héroïne est Carmen. Alors, elle est où dans votre arbre généalogique, cette Carmen?
Bah, elle est un peu partout et un peu nulle part, comme les autres. Elle est peut-être un peu moins à l'adolescence.
C'est un croisement de membres de la famille, c'est ça?
Ouais, de personnages aussi qui ont pu me marquer dans des livres, dans des films, j'imagine.
Elle vit en tout cas dans une période où on sort du franquisme, on est encore un peu là-dessous, on est dans une région avec donc des personnes qui ont fui l'Espagne, qui s'installent dans le sud de la France et qui ont une notion de la famille, de l'entraide et du partage assez poussé.
Oui, alors après, ça reste un roman.
Oui, bon,
moi,
enfin,
dans ce village-là, il y avait aussi le côté obscur de la force, les commérages. C'est,
ils y sont,
tout
ils y
pas.
Sont, les commérages.
Ils y sont, mais voilà, forcément, je pense que j'ai un peu enjolivé les choses. Mais il y avait quand même ce climat-là dans le café dans lequel j'ai grandi, en l'occurrence, celui qui sert de décor à une partie du roman. Ouais.
Et c'est une belle fratrie de femmes, de filles, un truc de solidarité, on avance ensemble,
mais oui,
ça n'exclut pas une forme de douleur ou de tristesse parfois ou un peu de violence, hein,
bien sûr,
entre elles, mais en tout cas on sent que hop, c'est le collectif qui l'emporte.
Mais oui, et ça c'est quelque chose moi que j'ai eu la chance de bénéficier, ouais. des femmes
fortes,
explosives pour certaines, plus fragiles pour d'autres, mais ce lien là, souvent je fais référence à un truc, moi qui suis si féministe, chez moi personne ne se levait de table, aucun mec se levait de table chez les grands-parents à la fin du repas, y rester, boire un digestif, jouer aux cartes et toutes les nanas dans la cuisine. Je devrais trouver ça scandaleux.
Ouais. Bah, c'est culturel. Tu veux dire qu'elle ne débarrassait pas? Elle allait dans la cuisine sans débarrasser?
Si, elle débarrassait, c'est bien
scandaleux.
Évidemment. Bah, ouais. Bravo.
Non, elle ne se lève pas les mains vides, c'est tout. Elle
voilà.
Il ne faut pas un voyage à vide.
Évidemment.
On ne voyage jamais.
Mais ce moment-là était tellement précieux parce qu'on se racontait tellement de choses que finalement ça nous allait tellement bien.
Ça vous arrangeait
de
vous retrouver entre vous.
Mais tellement.
Il y a des moments formidables, il y a des moments érotiques, des moments violents, des messages aussi sur la souffrance animale ou en tout cas le respect des animaux. Il y a toute une liste d'ailleurs de perroquets, d'animaux, de lapins, que sais-je.
Je me suis beaucoup amusée à faire une espèce d'animalerie dans ce café, notamment un perroquet, que j'ai trouvé assez savoureux quand je l'ai. Quand
surtout,
je...
c'est une balance, ce perroquet.
Ah, c'est une vraie balance.
Mais oui, mais voilà, je trouve.
Je savais que les perroquets reprenaient les voix, imitaient les voix, mais je savais pas qu'ils pouvaient imiter aussi les gestes.
Bien sûr, mais bien sûr.
Incroyable. Incroyable. Voilà, il y a donc un peu de vous, beaucoup de votre famille, en tout cas, de ce que vous avez vécu, mais il y a toujours cette idée de la famille, du déracinement, mais presque en se battant, j'allais dire, pour que la bouture prenne et pour que les racines soient toujours présentes. Quoi. Il y a de l'espagnol archi présent. Par moments, d'ailleurs, le personnage sait réciter une carte d'un menu et de choix de vin en espagnol, presque de mémoire, en s'interdisant de parler espagnol, puisque ça renvoie au franquisme et à la dictature subie là-bas.
Et oui, c'est vrai qu'on voit bien que c'est compliqué de manager avec... cette fameuse idée de n'être pas d'ici et n'être plus de là-bas non plus quand on est issu d'un exil quel qu'il soit. Et c'est vrai que ce sujet-là me fascine parce que la résilience me fascine. Mmh. Comment on peut, pour moi, on peut pas vivre si on peut pas s'enraciner. Donc comment on s'enracine quand on nous a coupé les jambes, en quelque sorte. Mmh.
C'est Et puis comment on crée sa propre histoire, comment on est issu d'une famille, mais après il faut construire une autre famille, et comment on la construit, les premières amours, les premières expériences, sûrement les déceptions qui vont avec aussi. Le quand dira-t-on est quand même très présent, parce que il y a cette espèce de sans que ce soit un tribunal, il y a quand même le jugement donné par tous ceux qui sont les clients du bar ou qui sont
La famille est tendue, en quelque sorte.
Et puis parfois, on anticipe un jugement qui n'a pas vraiment lieu. C'est aussi, on a peur de ça. C'est-à-dire que notre comportement est souvent conditionné au fait que, ah, attention, ils vont penser ça, donc je ne le montre pas. Or, c'est ça. Finalement, ils s'en foutent peut-être.
Absolument,
un peu.
Absolument, oui, voilà, le poids du préjugé, les fameux accords Toltec, ne pas... Oui. Voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup nourrie et dont j'apprends quotidiennement encore, bien sûr.
Alors, c'est une galerie de personnages, tout s'enchaîne, toutes les histoires s'enchaînent, mais il y a des moments où le projecteur s'arrête sur telle femme, tel homme. Il y a celles qui ont compté, toujours compté. Et puis il y a ceux qui, on se dit, ce sont un peu les silencieux du coin qui peuvent récupérer une chambre, mais finalement qui deviennent extrêmement importants par la suite. Et puis il y a Antonio. Alors lui, il n'est pas au milieu de tout, mais il est au milieu du roman en tout cas. Lui, c'est
le taureau.
C'est lui qui permet. C'est le torero d'abord, avant de faire le taureau, il a été torero. Mais il se comporte avec les femmes comme il se comporte en tauromachie, en dominant et en,
en
jouant avec sa proie.
Mais on a tous ce truc d'avoir notre job qui déteint sur nous. Moi, parfois, je me rends compte d'à quel point j'ai une déformation sur plein de choses. Et je me dis, quand on est sur un métier d'adrénaline, j'en sais rien. Je ne peux pas dormir en écoutant de la musique, par exemple. Je décortique.
Si vous gardez la même image, on est d'accord, de la même manière que lui, on pourrait dire qu'il reste torero quand il fait l'amour. Vous n'êtes pas forcément chanteuse.
Non, à la maison, je ne me mets pas des petits robe tous les jours, je ne me réveille pas maquillée et sublime, non. Non, moi aussi, j'ai la tronche de travers. Voilà, on me le
montre.
Non, mais je ne crois pas une seconde. On appartient tous à la même communauté.
Et oui,
Des filles fatiguées le matin.
Antonio se comporte, oui, comme il joue. C'est pour ça que je dis, il joue avec sa proie. Comme vous le dites d'ailleurs.
Ou pas, parce que justement, je crois que pour qu'elle s'affirme, il fallait qu'elle ait quelque chose en face qui soit assez dur. Pour faire un tel choix, il fallait qu'elle ait l'impression d'avoir quelqu'un à sa mesure.
Le choix de tout quitter pour un homme.
Oui, et à ce moment-là, quand elle le rencontre, elle doute de rien encore, elle est plutôt à côté de la plaque. Elle est très sûre d'elle.
Elle le nargue du regard, elle l'arnaque.
Ouais, voilà, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs.
Et c'est là le problème, c'est qu'elle croit gagner en fait.
Qu'elle va gagner. Et voilà, et ce rapport de force et de dominant-dominé est aussi assez agréable à explorer dans l'écriture, parce que forcément on a vécu ça. Forcément.
Et puis alors tout ce passage sur la souffrance animale, un passage carrément contre la tauromachie.
C'est un petit passage.
C'est un petit passage, mais c'est un moment clé dans le roman, notamment dans le comportement d'Antonio et puis dans tout ce qui va se passer ensuite. On va pas dévoiler comment la police intervient dans le roman, en tout cas, mais il y a des choses plus ou moins légales ou illégales qui ont lieu à différents niveaux. Et tout ça, pardon, est autour de ce marché. Même le rapport politique aussi se fait par rapport à la tauromachie, mais il y a tout un truc où votre personnage est carrément contre, écœuré par la mise à mort d'un taureau. C'est un discours très fort quand on connaît des traditions justement qui sont tout aussi fortes
Bien sûr, c'est ça qui était intéressant. C'était de se dire des Espagnols purs et durs, même si elles sont dans la négation de leurs racines, s'affirment contre.
Contre une tradition.
Voilà, tellement ancrée. Ouais. C'est une question, moi, qui me travaille. Et ça a été finalement assez douloureux de me plonger dans des recherches parce que j'y connaissais rien à la tauromachie. Et du coup, au moment où je trouve Antonio, où je me dis, ouais, super matador, impec, je suis obligée d'aller regarder des petits docus. Et ça a été une terrible violence pour moi. Je me suis dit, pourquoi j'ai pris ça comme sujet? C'est l'enfer. Et en même temps, en lisant des spécialistes qui en parlent, on a le point de vue complètement contraire à celui de Carmen aussi. Donc voilà, un peu perplexe pour ma part face à cette question.
J'aime bien vous dites, quand Antonio s'est pointé, Antonio, c'est vous qui l'avez écrit, donc c'est vous qui décidez de le mettre ou pas dans le roman, mais c'est ça.
Oui, mais on cherche.
Il n'y a pas un garagiste,
oui, c'est ça. Il a frappé à la porte.
Il a un rapport. Il a des problèmes de voiture, justement, ça l'aurait arrangé.
Non, mais parce qu'un personnage surgit. À un moment, on sait qu'on a une héroïne, qu'on veut la mener d'un point A à un point B. On sait qu'il va falloir qu'elle vive des tragédies, des moments fantastiques. Il va falloir qu'elle rencontre des personnes qui vont la faire évoluer sur quelques chapitres. Et c'est comme ça que tout d'un coup, on se dit, tiens, ça va être un torero.
Oui. Voilà. Et c'est génial symboliquement aussi pour ce que ça raconte dans ce que le personnage va traverser, dans cette notion de renaissance,
terre, voilà,
et dans ce
de mythologie, quoi,
et dans ce qui va lui faire traverser aussi, parce que de la même manière que le taureau est pris dans son enclos et dans son arène, elle-même va se retrouver piégée aussi en prison. Il faut le dire aussi parce que c'est pas fait pour dévoiler ou gâcher un moment du roman, mais c'est un moment aussi très important. D'autres rencontres vont se faire et où surtout la littérature va prendre toute sa place. Et ça, il y a une sorte de mise en abîme par rapport à votre travail et votre plume d'auteur absolument formidable et tellement agréable à lire. Parce que c'est quand même au-delà de toute l'histoire vraie, fausse, votre histoire personnelle, les voyages, les migrations. Il y a le plaisir de l'écriture, le plaisir sûrement du geste pour vous, mais nous, le plaisir de la lecture en tout cas.
Et on veut vraiment savoir ce qui va arriver. Arriver à ce personnage, en fait, c'est ça. On la suit.
On s'attache.
On est étonné aussi à chaque fois. Donc c'est ça qui fonctionne bien.
Et moi, presque quand vous en parlez, j'en suis.
Vous avez envie de lire ?
Non, j'aurais presque à nouveau de la peine pour elle. Comme à des moments, j'ai eu de la peine pour elle pendant l'écriture. Comme à des moments, j'avais envie de la sauver. C'est ça, en fait. Pour tenir le coup, pour écrire, pour mettre un réveil à 5h du mat tous les jours, écrire avant le lever de son petit. Il faut vraiment, à des moments, tomber amoureux de ces personnages.
Il y a un véritable attachement.
J'ai
envie d'aller prendre l'apéro dans le troquet. J'ai envie de.
Mais venez, il est toujours ouvert. Il est tenu par des Anglais. Et c'est rigolo parce qu'il y a toujours Manu, qui est le seul personnage qui existe vraiment. Et toujours dans ce café.
Bah, t'as un rang anglais, moi je demande à voir.
Là, du coup, on n'a pas, mais on peut trouver.
Et Escuto aussi,
on peut trouver.
On a envie d'échanger avec Escuto. On a envie, puisque écoute la pluie tomber.
Faut peut-être pas dire. D'où vient le titre du roman ?
Non, est-ce qu'on peut le dire ou pas ?
Non.
On peut dire que un personnage donne son nom au roman, voilà.
D'accord. Et que donc, Écoute la pluie tomber est le prénom de l'un des personnages.
De ce personnage, en occitan, Écoute la pluie tomber, ça se dit Escuto Camplao. Et ce personnage s'appelle Escuto Camplao. En tout cas, c'est son surnom.
Olivia Ruiz signe un très bon nouveau roman chez Jean-Claude Lattès, Écoute la pluie tomber. Là, on va écouter Morgane tomber sur vous. Sur vous ? Non, mais je vais y tomber.
Bah oui,
parce que Morgane n'aime pas Olivia Ruiz.
Je vous écoute tous les matins.
Écoutez la phrase jusqu'au bout.
Olivia Ruiz, je ne vous aime pas. Vous venez aujourd'hui nous parler de Écoute la pluie tomber et pour un lundi de printemps, c'est bien. Non, mais c'est bien, voilà. Non, mais moi, ça nous empêche de trop nous enflammer dans la joie de vivre non plus, quoi. Moi, je suis venue en vélo en sifflotant. Bon, bah, Guillermo et son regard de fin du monde à ma droite, Écoute la pluie tomber à gauche. Franchement, ça me ressemble. Arbeit. C'est votre deuxième roman, Olivia, et je crois que c'est peut-être le plus difficile parce que, comme vous le dites en interview, ce sont les retours des lecteurs sur le premier qui vous ont encouragé à écrire celui-là. C'est une pression énorme parce que maintenant vous êtes vraiment attendue en tant qu'écrivaine. En plus, vous êtes déjà chanteuse, comédienne et femme chocolat, donc franchement, les options commencent à se rétrécir. Il est génial ce CV. La moitié de l'année, j'écris, le reste du temps, je me fais tailler les hanches à la hache et je traîne des pieds. Voilà, l'intermittence, quoi. Non mais je lui mets un peu la pression. Je lui mets un peu la pression volontairement parce que moi les gens qui réussissent tout ce qu'ils touchent, ça m'agace un peu. Moi tout ce que je touche porte plainte. Et en plus Olivia, c'est Olivia Ruiz quoi. Moi depuis le début, ça fait des années que je vous imagine tout faire en robe rouge à la terrasse d'un café. Olivia Ruiz à tous les coups, elle va à la plage avec un petit panier en osier dans lequel rien ne se renverse. Elle installe son pareo sur les galets qui, comme c'est Olivia Ruiz, ne lui font pas mal au cul. Et en dépit du sujet, pour moi ce roman il s'est écrit quand même en pianotant à une terrasse et pas à 5h du matin. Je vous imagine pas du tout faire quelque chose dans la douleur. Voilà Olivia, vous m'inspirez une certaine forme de légèreté, mais ça c'est le côté latin. Margaret Thatcher, je pense pas qu'elle a écrit ses mémoires entre deux perriers sur une terrasse dans le bar. À tous les coups il y avait un énorme bureau en acajou dans l'histoire quand même quoi. Donc non, retour à la pression, 300 000 personnes ont lu votre premier livre, ça fait 300 000 occasions de pas être à la hauteur. J'ai été avec un gars qui a réussi ça en une demi-journée. Donc tout est possible. Ce roman s'inscrit dans la continuité de votre fresque sur l'exil qui est très présente dans toutes vos œuvres, parce que au cœur de votre histoire familiale, c'est toujours passionnant de se rendre compte à quel point l'endroit d'où nous partons et comment nous en partons influence qui nous sommes et ce qu'on apporte aux endroits dans lesquels nous terminons. Voilà, je vais nous laisser une petite seconde.
C'était très clair.
C'est Joël Dickers qui m'a conseillé ça quand il est venu. Il m'a dit, si tu sais pas, des pronoms relatifs et un shérif mélancolique. Et en même temps, moi je suis pas écrivaine. Quand je m'installe à la terrasse d'un café pour boire du Perrier, c'est que la veille, je me suis installée dans la terrasse d'un café pour boire du rhum arrangé, puis un spritz, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que tout ait le goût délicieux de l'essence. Donc, franchement, le seul exil que je connaisse dans ces moments-là, c'est celui de ma dignité qui a vraiment fui, mais sans se retourner, mais une seule seconde, quoi. D'ailleurs, j'écrirai peut-être un jour un livre là-dessus. Ça s'appellera Regarde le jour se lever. Et ça sera des excuses auprès des 300 000 personnes que j'ai sûrement vexées la veille.
Merci, Morgane. Bien plus de 300 000 lecteurs hein, pour le premier roman, et d'ailleurs cette pression du succès de La Commode, vous l'avez, enfin cette pression ou ce compliment des lecteurs, on se sent obligé quand on a un tel succès d'écrire un deuxième roman, ou au contraire on a peur de décevoir.
Comme le deuxième album quoi.
Bah voilà, comme chaque album finalement, en fait c'est ça le drame de ces métiers et probablement ce qui fait qu'on les aime tant aussi. C'est qu'à chaque fois, on sait pas, quoi. Mmh. Moi, souvent, j'entends les gens dire ton public, et chaque fois, je recadre, parce que je dis, mais, allô la terre, y a personne n'a son public, à quelques exceptions près. Un public, c'est émouvant. Moi-même, il y a des gens que j'adore et je suis pas forcément toujours à l'affût du disque, et je le découvre parfois 6 mois après. Du coup, ou du livre d'ailleurs.
Oui, mais alors, de la même manière que quand on est dans le monde de la musique, on a un style, on a des arrangements, des producteurs, des sons, des ambiances bien particulières. Est-ce que là, vous vous êtes dit, je veux rester après la Commode, je veux rester avec cette idée justement de peuple migrant, cette idée de déracinement, cette idée de famille, cette idée de femme. Aussi, les femmes sont très, les femmes sont très présentes. Il y a beaucoup d'héroïnes, et même lorsque l'on parle des hommes ou on les raconte, c'est par le prisme des femmes.
Oh, escuto est le vrai héros peut-être de cette histoire.
De son histoire.
Oui, mais il passe quand même beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on reproche souvent dans les films français, c'est qu'on met des femmes, des rôles de femmes qui regardent ou qui parlent des garçons.
Ah oui, non, là, elles sont actives voilà. Chez moi.
Et surtout, il est quand même très très lié aux femmes.
Bah oui,
c'est vrai.
À l'action de Violette, de Rita, de. Oui. Enfin, voilà.
Effectivement, elles sont globalement plus présente, mais parce que peut-être
ce qui a décidé de son destin au début, c'est ce que Violette a subi, ce qui le pousse à régler ses comptes avec son père, c'est Carmen, c'est Rita.
Les latines quoi, voilà. On se mêle de tout. On se mêle de tout, ça ne nous regarde pas, on y va quand même, parce qu'on a un conseil à donner, sans savoir même s'il est le bon. Mais on y va, c'est vrai que ça, voilà, c'est la Méditerranée, on parle, quoi, on s'exprime, on donne notre avis quand on nous le demande.
Mais donc, il était évident pour vous de prendre ces repères à nouveau, avec un peu de vous dans chaque personnage, un peu de vos sœurs, ouais, de votre famille.
Je pense que, effectivement, j'avais envie de retrouver ces femmes. Je voulais pas du tout retrouver la voix de Rita, parce que j'en avais fait le tour, je pense. Mais par contre, il y a eu un petit déclencheur en plus, c'est que l'été dernier, hasard ou pas, Je me retrouve en Espagne, des amis, avec des amis qui s'occupent de louer une maison. Et puis, je retrouve un endroit qui me semble très familier. Je rappelle un cousin que j'ai pas vu depuis 15 ans. Du coup, je le vois. Je lui offre la commode qui vient de finir d'être traduite en espagnol. À ce moment-là, je lui dis, lis, mais c'est pas du tout l'histoire de ma grand-mère et de ta mère. Puisque là, c'est trois sœurs qui font la retirade à l'exode des républicains espagnols. Et il me dit, mais bien sûr qu'elles ont fait l'exode. Mais bien sûr qu'elles ont été dans les camps de concentration. Alors là, les bras m'ont tombent. Et je me dis, mais non. Mais je lui dis, mais personne le sait. Ouais. C'est bizarre. J'arrive chez moi, au retour de chez le cousin, prête à assassiner mon père. J'ai dit, mais papa, mais je lui dis, mais comment tu... T'as pu oublier un truc pareil. Si ton cousin le sait, c'est que toi, tu dois bien être au courant. Et là, il me dit, ah mais oui, maintenant que tu me dis ça, ma grand-mère nous racontait souvent qu'elle enterrait ses trois filles dans le sable chaque soir pour ne pas qu'elles meurent de froid. Je lui dis, mais où veux-tu que ça se passe, à part sur les plages catalanes qui ont accueilli 400 000 autres Espagnols? Je l'engueule, méditerranéenne un jour, méditerranéenne toujours. Et quand même, je pars avec ce truc de me dire, mince, elle avait quel âge du coup, ma grand-mère? Au moment de la retirade, elle avait 6 ans. Tiens, Carmen, dans le premier roman, avait 6 ans. Voilà.
C'est troublant.
Et là, on me raconte vaguement. Un souvenir me dit que c'était un peu une teigne. Voilà. Mais je peux pas trop en savoir plus, alors je me dis, bon... Quel type de teigne ça pourrait être?
À quel point, au-delà d'avoir presque des prémonitions ou des fulgurances en écrivant des choses qui
des réminiscences,
qui s'avèrent, qui sortent comme ça de la et qui rejoignent la réalité. À l'inverse, est-ce que on peut se permettre aussi de faire à des personnages qui ont pu exister tout et n'importe quoi, justement en leur donnant une vie privée, une intimité à la limite? Il n'y a pas quelque chose de gênant ou d'impudique à faire l'amour dans un roman à sa grand-mère, par exemple?
Mais c'est pour ça que mes personnages sont fictifs. Et personne ne peut se reconnaître dans un des personnages à part le fameux Manu. Du coup, je suis libre de leur faire faire tout ce que je veux. À part que quelquefois, j'ai de mauvaises surprises. La scène de sexe qui arrive assez vite dans le roman a choqué mon pauvre papa.
Avec Antonio, oui.
Voilà, justement, parce que il y a quelque chose qui fait que...
Ça résonne.
Bah forcément, on imagine que c'est nous. Quand on est l'auteur, on est forcément aussi l'héroïne.
Ça veut dire que le prochain livre, il n'y aura pas de scène de sexe? Justement,
ou
pour
alors
éviter
y en aura
de.
Plein, vous voulez dire.
Ouais, j'ai envie,
ou alors ce sera.
C'est vous la teigne, en fait.
J'ai envie de dire dommage parce que c'est tellement
bien. C'est bien raconté.
Ah, c'est tellement bien écrit. C'est-à-dire que rien n'est vulgaire et pourtant c'est tellement chaud. C'est-à-dire que c'est.
On leur dit le secret?
Non.
Non. Mais j'ai envoyé une scène coupée tout à l'heure à Nagui parce qu'on a évoqué la partie sensuelle du roman.
Il y a des scènes, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et il n'y en a pas qu'une d'histoire d'amour ou de rapport sexuel. Mais la manière dont c'est écrit, encore une fois, c'est vraiment caliente. C'est-à-dire, on sent que c'est.
C'est un taureau, hein.
Oui. Mais. Mais alors?
Il y a un petit regret dans la voix de Leïla.
Non, pas du tout.
Ce voyage annulé à Séville.
C'est cohérent, quoi.
Est-ce que tu penses que on fait l'amour comme on travaille?
Ah, je pense qu'on fait l'amour comme on danse souvent.
C'est cool, ça voudrait dire qu'on fait l'amour souvent.
Oui, non.
Beaucoup trop.
D'un seul coup, j'ai l'image de Nagui qui parlerait tout le temps.
Le week-end, tous les matins.
Je parlerai de la manière. C'est-à-dire que est-ce que Leïla est obligée de faire un texte d'abord pour dire mesdames et messieurs bonsoir avant de commencer à faire l'amour? Est-ce que Guillermo fait rire?
Les préliminaires.
Est-ce que Guillermo fait rire quand il fait
l'amour? Parce qu'ils
sont trois. C'est plusieurs.
Mesdames et messieurs bonsoir.
Écoute.
Pardon de vous avoir amené sur ce genre de considération.
On jubile.
Non, mais c'est moi sur le torero. C'est vrai que le torero, ça pouvait pas être autre chose qu'une scène très très chaude.
A priori, oui. C'est vrai que.
Non, parce que vu comme
c'est une certaine image de la virilité.
C'est l'archétype du viril, c'est bestial, c'est failli un truc de cet ordre-là.
Non, c'est pas ça. Non, mais je pense. Et puis il y a des scènes aussi entre deux filles. Il y a différentes descriptions qui sont très. Comment dirais-je? Très bien évoquées, d'autant plus délicatement évoquées et qui en même temps restent extrêmement érotiques. Et c'est là l'exercice. C'est-à-dire que donner beaucoup d'érotisme à une scène sans tomber dans la vulgarité, c'est toute une élégance. non, c'est tout un savoir-faire et un savoir-écrire. Oui, 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 c'est, et puis c'est, ça peut,
oui,
ça
c'est
peut être, ça peut
fragile.
Être tentant de rentrer dans des détails et de se dire, et d'être gêné à un moment donné en disant, mais j'ai pas envie de lire ça. Or là, tout est beau, tout est excitant et bien raconté. Et
de, papa, tu nous écoutes.
Et de l'autre côté, oui.
Tu finiras de lire mon livre.
Évidemment.
Ah, il a arrêté à la scène?
Oui, il va falloir qu'il trouve le courage de repartir. Mais j'ai
évidemment
beaucoup édité, du coup.
Ah.
Les parties plus sensuelles.
Et puis, ce sont des parties sensuelles et érotiques qui apportent quelque chose à l'histoire. C'est-à-dire que c'est
oui,
pas gratuit, c'est pas juste pour ajouter.
Carmen.
Voilà. C'est, oui. Et ce sont des moments essentiels pour comprendre ce qui se passe, y compris avec la scène avec l'infirmière, pour comprendre comment aussi le personnage évolue et toute l'expérience qui est retirée de ces histoires-là. Non, non, c'est vraiment extrêmement bien écrit, élégant.
Merci.
J'ai rien trouvé de choquant.
La scène avec les scouts dans la forêt aussi,
ça
importe beaucoup.
En fait, c'est moi qui lui ai raconté.
C'est retranscrit de l'enfance de Mike.
Écoute, La pluie tombée, Olivia Ruiz, c'est chez La Tesse et c'est formidable. On vous encourage vraiment à le lire et à ne surtout pas vous arrêter. De toute façon, c'est impossible. C'est-à-dire, quand on a commencé, on est pris par le syndrome de la page qui tourne. C'est-à-dire qu'on veut vite voir ce qui se passe de
et parfois,
de
je me fais gronder par les internautes parce qu'ils trouvent que c'est trop court.
C'est bon signe.
Et c'est
excellent.
Ouais,
ouais,
mais ça ralouille un peu quand même. C'est un peu
gros, dis donc,
voilà, 200 pages.
Bah,
alors que moi,
pages.
Ce sont de vrais choix. J'adore couper une scène ou couper ou enlever toute une période parce que je trouve ça tellement plus agréable quand on lit de se faire notre image nous-mêmes sans avoir quelque chose de trop figé.
Non, ça marche. Écoute, La pluie tombée, c'est chez La Tesse. Écoute, Guillermo Guise sur Inter. C'est maintenant.
Ça va les amigos?
Ça va et toi?
Eh, vous me connaissez en général, je suis pas quelqu'un qui se vante.
Non.
Non, c'est vrai, non
c'est vrai.
Genre,
c'est vrai.
Je vous ai jamais dit j'avais
t'as
une
bien
vue.
Raison.
J'ai une vue hors du commun. C'est vrai. Par exemple, j'ai 7 à l'œil gauche, 8 et demi à l'œil droit. C'est entre le faucon et la coriandre. Vraiment, j'ai. Je peux distinguer la tour Eiffel à moins de 40 mètres. Vraiment, j'ai à la foire du trône, on m'appelle El Sniper. Vraiment, il y a plus aucun stand de tir qui m'accepte. Chaque fois, c'est moi qui je gagne le radio réveil. Eh ben, je vous en ai jamais parlé. Je suis un mec modeste. Regardez Olivia Ruiz, par exemple. Elle a choisi son pseudo en référence à qui, vous croyez? À la base, elle s'appelle Olivia Champignol. Ruiz, c'est un hommage à Guise. C'est comme ça. Je m'en suis déjà vanté, à part sur mon tatouage, fier d'être ton modèle, Olivia? Jamais. Du coup, quand il m'arrive des trucs fous dans la vie, je les garde pour moi en général. Mais là, je suis obligé de vous raconter, c'est trop fou.
Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a eu?
Vous savez qui me suit sur Instagram depuis vendredi?
Non,
vous avez droit chacun.
Qui
me suit?
J'avais très bien entendu.
Ouais, on a eu très peur.
Qui me suit sur Instagram depuis vendredi? Vous avez droit à chacun un nom. Je vous donne un indice, c'est Thomas Pesquet. Je vous ai niqué le jeu, mais je vous connais, si on joue vraiment, je récupère la parole dans 2 heures. Je fais ma chronique dans le jeu des 1000 euros. Ernesto Banco. Vraiment, non, c'est Thomas Pesquet qui me suit sur Insta.
C'est
et j'avoue que, franchement, j'ai zéro explication. Déjà parce qu'on peut pas dire que je sois incontournable sur Insta. Mon dernier post, c'était en février. Je crois que sur Insta, ça a plus intérêt de suivre Tanguy Pastureau, quoi. Et Tanguy, il poste quasi que des photos d'Alain Juppé et des extraits du Code Napoléon. Là, il m'a dit, je voudrais surprendre mes followers. Tu sais comment on fait un boomerang? Vraiment, dans 3 mois, il est à Dubaï, il fait des codes promo. Vraiment. Franchement, j'étais surpris que Thomas Pesquet me connaisse. Je voyais pas de où, quoi. Puis j'ai lu qu'il était à Cannes la semaine passée pour la soirée Top Gun. Je me suis dit, ah ouais, ça doit être de là, quoi. Il a sûrement croisé Tom Cruise, qui est fan. C'est sûr, Tom, il a dit, do you know this fucking guy, Ernesto? He's such a motherfucker, funny motherfucker. Là, Thomas Pesquet a fait, sorry, I don't speak English. Parce que Thomas Pesquet, il parle pas anglais. C'est pour ça qu'il reste chaque fois si longtemps dans la station internationale. La majeure partie du temps, il est sur Google Trad. Tu sais, un astronaute russe qui lui fait, I got no oxygen, got no oxygen. Le temps que Thomas, il prenne son iPhone, il ouvre son app, le mec, il est violet, quoi. Tu vois, vous avez jamais remarqué, dans leur mission, ils partent à 9, ils reviennent à 2. Ah ouais, tant que Pesquet il aura pas les rudiments de l'anglais. Mais bon, bref, c'est vraiment flatteur quand quelqu'un pour qui t'as de l'admiration te montre de l'intérêt, quoi. Même de loin. Par exemple, vous savez qui me suit pas sur Instagram? Nagui. Ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble. Je fais tout pour qu'on soit proche. Je ris à ses blagues sur Thibaut Courtois. Allez, j'y mets du mien, quoi. Il m'a jamais follow, alors que nous, par contrat, on est tous obligés de le suivre sur Insta, tu vois. Une fois, j'ai essayé de me désabonner, j'ai eu un contrôle fiscal. On m'a cambriolé. Il m'a dit, je sais où ta famille habite. C'est bon, j'ai compris le message. Bah, par exemple, vous savez qui ne suit pas Nagui sur Instagram? Thomas Pesquet. Bien fait pour lui, voilà. Il sait pas ce qu'il rate, quoi. 6 stories par jour, sans n'oublier pas les paroles, tu vois. Il est pas incroyable, Jean Martial? Ah, il nous a régalé sur Kiki Miller. Ah, bah, c'est pas facile d'être une femme libérée, vraiment. Mais là, je me sens limite mal, parce que j'aimerais bien que Thomas Pesquet, il en est pour son argent quand il visite mon profil Insta. Mais là, peut-être que je peux lui envoyer un message privé. Il y a mon pote Younes, il m'a dit, tu sais quoi, vas-y au panache, envoie-lui, non merci, j'ai besoin d'espace, et bloque-le. Je trouve ça drôle. Peut-être la nuit, s'il est online, je peux lui envoyer « Tu dors ?» Regardez les étoiles, je pense à toi.
Non.
Ou alors comme contenu pour le divertir sur Insta, peut-être que je poste cette chronique-ci. Toi, et le sujet, il peut l'intéresser. En plus, j'ai lu qu'après 45 ans aéré dans l'espace, la sonde Voyageur 1 commençait à envoyer des signaux bizarres à la... Vous avez vu ce truc ou pas? La sonde Voyageur 1 commence à envoyer des signaux bizarres à la NASA. J'étais là, allez, ça fait 45 ans qu'elle est dans l'espace. C'est déjà bien 45 ans, tu vois. Moi, mon imprimante, je l'ai depuis 2019. Tu vois, dès que je tente un bicolore, elle fait une ligne sur deux, tu vois. À 45 ans, mon imprimante, c'est sûr, elle va envoyer des signaux chelous. Ça fait depuis 2013 que Voyageur 1 est sorti du système solaire. La sonde est là à 23 milliards de kilomètres de la Terre. Dans l'article, je vous promets, il y avait écrit Voyageur 1 semble confus quant à son emplacement dans l'espace. Sans blague, 23 milliards de kilomètres d'ici, c'est sûr que t'es confus. Moi, je suis confus quand je sors de la zone euro. Tu vois, je suis là, ils sont où les libres? Vraiment, elle doit être déboussolée, cette sonde. Elle peut plus communiquer par WhatsApp les 23 milliards de kilomètres. Les frais d'itinérance, ils sont massifs, tu vois. Franchement, tu peux envoyer une dick pic, ça te coûte le prix de la sonde. Demande à Daniel, tu vois, qui a dû vider son livret A juste pour ça. Et jamais reçu, en plus, Daniel. Franchement, jamais reçu, c'est
bien.
Bref, si tu regardes Thomas, sache que l'espace m'a toujours fait rêver qu'à l'occasion, autour d'un café, j'adorerais que tu me racontes comment tu prépares tes missions et pourquoi Voyageur 1 déconne. Et moi, de mon côté, je te dirai comment bien conclure une chronique. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume. Olivia Ruiz signe Écoute la pluie tomber.
Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou.
Et on retrouve évidemment votre univers, vos textes. Évidemment, il y a l'exil entre les deux romans. Il y a les vieux à la belote. À Marseillette, en train de jouer toute cette vie dont vous êtes totalement imprégné, que vous transmettez aussi à votre manière, j'imagine, à votre famille, mais à nous aussi, avec ce besoin, et c'est ça qui est important, c'est raconter, ne pas oublier ce qui a pu se passer, que ce soit d'ailleurs dans l'histoire des pays, des régions, mais aussi des populations et des êtres humains.
Ouais,
c'est un devoir de mémoire aussi.
Ouais, et puis un devoir de citoyenne en 2022, je pense tout simplement de rappeler que les stigmates d'un exil sont une évidence pour tout.
Mais c'est une richesse aussi. Il y a des stigmates, oui, il y a des blessures, il y a des traces, mais il y a aussi ce que ça apporte en plus.
Bien sûr, sauf que un accueil digne de ce nom sera décisif dans le destin de celui qui doit déjà affronter un voyage qu'il n'a pas choisi.
On peut même trouver un écho dans l'actualité avec ce qui se passe en Ukraine, par exemple, aussi.
Bah oui, je suis pas sûre que... Partout dans le monde, depuis toujours, finalement, quelque part.
Parce que la migration ukrainienne est plutôt entendue et prise en compte. Il y a d'autres migrations dont on a détourné le regard.
Oui, on aimerait bien que l'Ocean Viking ait plus personne à repêcher.
C'est ça.
Moi, tous les jours, j'arrive du 13e arrondissement, et ça, personne n'en parle.
Personne ne vous repêche.
Non. La musique est présente. La danse est d'abord présente. Avant même la musique, la danse est présente.
Le corps.
Exactement. Ouais. L'expression corporelle. Écoute la pluie tomber, Olivia Ruiz. Justement, la musique, on va en parler avec vous. On va parler également avec Pascal Blanchard tout à l'heure, qui est spécialiste de la question coloniale française, de l'immigration, des enjeux post-coloniaux. On en parle beaucoup d'ailleurs avec Papa Ndiaye qui subit aujourd'hui les foudres, les insultes racistes primaires et extrêmement choquantes, simplement en disant qu'il ne faut pas oublier que la France s'est comportée d'une manière assez odieuse avec ses colonies, avec la manière de ne pas respecter justement des pays, des origines. Voilà. C'est ça, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de notre histoire aussi. En 99, Olivia Ruiz, vous écoutiez Daft Punk. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique électro?
Elle évoque ma jeunesse, elle évoque les Borealis, elle évoque mon amoureux de l'époque. Il m'avait inspiré une nouvelle d'ailleurs que j'avais faite pour l'UNICEF. Elle évoque, partir dans la voiture le vendredi soir, essayer d'aller trouver le passeur au péage de Saint-Jean-de-Védas qui allait pouvoir nous indiquer où avait lieu la rave, rentrer 48 heures plus tard dans un sale état, fatigué. Mais heureux, voilà.
Musique, voyage, amour, hein. On retrouve là encore une fois les recettes.
Quoi. Et l'avantage d'être né en 1980, c'est qu'on a eu 20 ans en l'an 2000. Et quand on a 20 ans en l'an 2000, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, on ne payait pas son abonnement téléphonique de la ligne fixe. C'était un cadeau de France Télécom de l'époque. Non, ouais. Et aussi, il y avait des programmes qui étaient mis en place. Et vous, vous êtes parti pendant un mois à travers l'Europe pour une mission pour le ministère de la Culture en tant que reporter de l'an 2000.
Mais ça non. avait bon dos, le reporter de l'an 2000. Non, mais c'était quand même génial.
Dites
2000 jeunes. 2000 jeunes français nés en 1980, choisis par Trottmann et envoyés dans quatre capitales d'Europe pendant un mois. Ils nous donnaient les billets d'avion. Moi, je m'étais pris Copenhague en plein festival de jazz, Vienne en plein festival de jazz. Et on devait juste prendre en charge nos logements et envoyer des petites piges au journal local qui, je ne sais même pas si
les publier,
ils ont reçu, ils ont publié, mais bon. Vacances à l'œil pour promouvoir les relations intra-européenne.
C'est joli comme idée. C'est joli comme idée.
Génial. Génial. Donc voilà, un mois de rêve absolu.
Un mois avec des rencontres, de la musique.
On se reconnaissait entre nous parce qu'on avait tous un sac vert tout pourri auberge de jeunesse de France. Et puis on était en décalé, donc il y avait des groupes qui arrivaient et qui géraient pour le groupe. Nous, on en avait qui arrivaient trois jours après nous. On arrivait, on n'avait pas les locations d'hôtel, on dormait n'importe où. Mais on leur préparait le voyage, du coup c'était top pour le groupe d'après.
En 2002. Oh mon pays, Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent.
On est en 2002, vous venez de sortir de la Starac, 6 mois de tournée Starac, votre premier titre, Paris. Alors, je vous vois lever les yeux, enfin, c'est le premier single d'un candidat de la Starac qui est joué sur des radios généralistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre rétrospectivement ?
J'adorais ce titre, c'est Chet qui l'avait écrit pour moi. J'étais perdue, je me suis retrouvée avec deux producteurs en studio pour produire la chanson qui comprenaient pas du tout ce que je voulais. J'étais dans une maison de disques qui m'avait clairement pas choisie, qui me disait « mais arrête de dire moins, on dit moins ». Moi, j'étais vraiment paumée et en même temps, je me suis dit il va bien falloir se jeter à l'eau. Donc, je suis partie avec cette version que j'ai refaite quelques années après, un peu comme ça, entre deux eaux, en me disant « j'adore la chanson, mais la prod, je suis moyennement en capacité de la défendre de tout mon cœur ». C'était une drôle de période, quand même. Ouais.
Une période où vous êtes amenée à aller voir des auteurs pour écrire pour vous, de constituer un
qui
petit peu votre...
Qui m'envoient tous
bouler. Voilà, parce que Starac.
Oui, ce que je comprends. Moi, si j'avais été à leur place, j'aurais peut-être...
Mais aujourd'hui, ça serait plus le cas.
Et finalement, j'arrive à les faire céder.
Ouais. Du coup. Mais aujourd'hui, ça serait plus le cas.
Je pense pas, non. Je pense que ça s'est vachement démocratisé. Ouais. Après, c'est particulier quand même. C'est pas Nouvelle Star ou c'est pas The Voice ou The Artist. On ne voit que dans le boulot.
Il faut rappeler que la Starac, au début, n'était qu'un loft musical. C'était l'idée d'enfermer des caractères et des traits de caractère ensemble pour le prétexte de la
musique.
Alors,
pas au début, Nagui, figurez-vous, puisque c'est pour ça que les trois premières semaines, l'émission prend un bide total. Parce qu'on ne montre que les cours. Et au bout de 3 semaines, on nous met des caméras dans la salle de bain, dans la cuisine, dans machin. Et quand ça devient un peu plus télé-réalité que école.
Et comment vous le vivez,
là, ça se met à fonctionner.
Parce que la promesse initiale,
c'est surtout...
Il n'y a pas de promesse initiale, vous savez, Leïla.
Olivia.
C'est vraiment en chantier. Même nous, quand on rentre, je ne sais même pas trop si ça vous en va. C'est nouveau.
Oui, parce que mettre tout d'un coup des caméras...
Je vais dire quelque chose.
Oui, si tu...
C'est pas la vraie histoire. Non, c'est pas la vraie histoire. C'est devenu de plus en plus télé-réalité, mais ça ne marchait toujours pas. Et c'est quand il y a eu des invités brillants, je crois que le premier a été Marc Lavoine, a accepté de venir à se mêler. Et c'est quand c'est devenu très variété, très musical que ça a pris.
Peut-être que vous parlez du samedi et moi de la quotidienne,
la
parce qu'il n'y avait pas d'invités.
Mais
le succès
de la Starac, en tout cas, était comme ça.
C'est quand il y avait des artistes.
Le resituer, oui.
Mais on vous demande ça clairement quand vous entrez. Moi, dans le côté intimité, c'est-à-dire on filme les cours, quand tout d'un coup on commence à mettre des caméras dans les salles de bain, dans les chambres, dans les ça, on vous pose la question. Vous êtes
même,
très jeune en plus.
Je vous jure, Leïla, même eux, ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. C'était,
c'est dingue.
Voilà, bah, TF1 s'était vachement positionné en mode, justement, nous, on ne fera pas de la télé poubelle, comme M6, machin. Du coup, je pense vraiment que tout s'est fait au fur et à mesure.
Enfin, il savait ce qu'il faisait quand il mettait les caméras dans les salles de bain. Quand même.
Ça, c'est sûr. Le
oui, non, mais je...
Côté un peu voyeur, bien sûr.
Le retour de la Starac, vous le vivez comment? C'est une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle? Vous en foutez?
J'avoue que j'y suis pas spécialement connectée, ni très sensible. Mon seul souhait...
c'est de protéger ceux qui vont rentrer, c'est ça?
Voilà.
On vous a approché pour participer ou pas?
Non.
Non, du tout.
Non, non. Et c'est vrai que voilà, c'est juste, j'ai une petite inquiétude maternelle pour les futurs candidats, c'est tout ce qui me... voilà.
Oui, qui sont tellement pris en charge qu'il faut aussi bien les accompagner.
Penser à l'après, ouais.
Exactement. En 2007, vous écoutiez...
Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme.
Cette voix résonne d'une manière particulière, pas que cette chanson. Je parle de la voix du chanteur.
Bien sûr, bah oui. Mathias,
il a
vraiment contribué. Il m'a porté. Même le roman, c'est encore son idée, quoi. C'est lui qui passe chez moi, qui me voit un petit peu désœuvrée, un peu, dans un moment particulier. Et qui rappelle celle qui deviendra mon agente et qui lui dit, toi qui voulais faire écrire Olivia, c'est le moment, fonce, elle a du temps. Voilà, et je me retrouve à écrire la commode au tiroir de couleurs. C'est vraiment...
Et c'est avec lui.
Pétris-moi et oui, quand même.
C'est pas Morgane.
Chocolat, là, on est en 2007 et vous décrochez de Victoire de la Musique, Olivia. Artiste féminine de l'année, spectacle musical, tournée ou concert de l'année, deux grosses récompenses pour un palmarès des Victoires de la Musique. Comment vous le recevez à cette époque-là?
Là, j'ai mes parents dans la je reçois pour eux quoi, soyons clairs. Hein. Ouais. Ça c'est vraiment le cadeau pour la famille, pour les parents qui s'inquiètent.
La remise des prix à la fin de la classe. Quoi,
ben voilà, exactement.
Mais à l'époque vous n'écriviez pas de porno, ils étaient là vos parents.
Et voilà, c'était quand j'avais une famille, des gens qui m'aimaient.
Mais est-ce que vous êtes une angoissée? Est-ce que ce genre de récompense, quand ça vous tombe dans les bras, qu'on les ramène à la maison, le lendemain
Alors, je ne les ramène pas à la maison. Okay. Elles sont toutes chez ma mère. Je n'ai rien à moi.
D'accord.
À partir du moment où je la reçois, voilà, elle est embarquée.
Et alors, on se réveille comment après ça
On se réveille. Moi, justement, qui suis très angoissée, qui ai un petit travail encore inachevé sur la confiance en moi... Je me suis dit, le lendemain matin, je me rappelle, j'avais toute la famille qui débarquait justement, je suis partie faire des courses, je me suis dit là, je vais pouvoir me sentir bien et me tenir droite, quoi, le front haut, là, pour faire mes courses. On va me féliciter, les gens du quartier, mais genre, personne n'en avait rien à secouer. Personne n'avait vu l'émission, c'était vraiment pas le sujet du jour. Je suis rentrée chez moi en me disant, mais voilà quoi, faut pas se battre contre
J'ai
sa personnalité.
De pas avoir confiance.
Mais c'est, enfin, il y a un moment donné, quand on est ce qu'on est, on perd moins de temps, je pense, à l'accepter qu'à essayer de travailler dessus. Pas sur tout, mais sur certaines choses, oui.
Écoute la pluie tomber, la musique est également présente dans ce roman.
Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí.
Écoute, la pluie tombée, c'est chez La Thèse, signé Olivia Ruiz. On parle justement de cet exil des colonies aussi avec vous, Pascal Blanchard. Bonjour, merci de venir à ce micro. Vous êtes historien, spécialiste de la question coloniale française, de l'immigration, des enjeux post-coloniaux. On reparle beaucoup des colonies, de la colonisation et des enjeux post-coloniaux avec Pape Ndiaye en ce moment. Quel est votre sentiment sur toute cette polémique qui ressemble beaucoup à du racisme?
Nommé ministre de l'éducation.
J'aime bien
nationale.
Le coup.
Oui, j'ai oublié de le préciser.
Qui ressemble beaucoup à du racisme. J'aime bien la phrase parce que ça ressemble beaucoup à du racisme. Oui, ça renvoie aussi à la manière dont certains pensent ce pays.
Il n'y a pas une manière unanime de le faire. Il y a des gens qui sont dans une tradition où ils pensent que le pays doit être replié sur lui-même. Ils ont peur, en fait, qu'une identité se perde. D'autres qui ont, depuis de nombreuses années, comme Pape Ndiaye, une grande ouverture d'esprit sur certains sujets. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour nous, les historiens, mais aussi pour vous, peut-être, les journalistes, les artistes, pour expliquer qu'une société qui se métisse, ce n'est pas la perte d'une identité. C'est qu'on peut avoir, en fin de compte, de la richesse sans le partage.
Vous n'êtes pas venu à la bonne adresse, là, franchement.
Mais c'est super compliqué quand on voit que beaucoup ont peur.
C'est pas tant les artistes qui n'ont pas compris ce message.
C'est les journalistes.
Je crois que les artistes ont compris. Les journalistes majoritairement l'ont compris. Et c'est plutôt...
Il reste le travail à faire sur les Français.
Voilà.
La majorité des Français... C'est compliqué à expliquer. Vous savez qu'un pays, que cette histoire, elle est la nôtre. On doit la digérer, on doit la prendre, on doit en débattre. Elle a eu des moments difficiles, on vient d'en parler, on va en parler. D'autres moments aussi de gloire. Tout ça est complexe parce que les gens ont peur que quand vous rajoutez quelque chose dans l'histoire, vous leur enlevez quelque chose. Alors qu'en fait, on peut avoir Jeanne d'Arc, Louis XIV, Messaliage, Fanon, Senghor, Césaire. Tout ça, c'est notre histoire. Et des gens ont peur de ça, en fait. Et donc, ils sont d'une manière très restrictive et ils sortent les vieux tréfonds racistes, parce que le racisme, c'est comme un millefeuille. Faut pas croire que les nouvelles strates, elles ont effacé ce qu'il y avait avant. Ça revient.
Alors, il y a aussi ceux qui vivent l'exil, le déplacement, l'émigration, qui peuvent d'ailleurs être totalement déracinés, perdus dans un pays dans lequel ils arrivent, et subir donc une forme de rejet. Et puis, même lorsqu'ils retournent dans leur propre pays, subir là aussi le rejet ou l'opprobre avec les reproches qu'on peut leur faire. Donc,
nulle part chez soi. C'est toute l'histoire de ceux qui ont connu la migration, volontaire d'ailleurs ou non volontaire, parce que c'est pas le même récit. Quand vous choisissez de partir pour nourrir votre famille ou pour quelque part un choix intellectuel, faire des études, c'est pas la même chose que de devoir partir à cause de la guerre, à cause d'un enjeu politique, à cause d'une crise climatique. Et vos enfants souvent vous questionnent du savoir du pourquoi. C'est pas facile pour un enfant, par exemple, d'arriver à comprendre, je prends un exemple simple, pourquoi au lendemain de l'histoire coloniale, des millions de gens, des ex-colonies sont venus vivre dans le pays du colonisateur. Ben, les parents n'ont pas parlé parce que c'était inexplicable, en fait. Et donc, vous avez une génération de gamins, puis maintenant la troisième génération de gamins qui veut comprendre tout ça, qui se dit comment je suis plus de là-bas, je suis pas vraiment d'ici, comment je vais construire mon identité avec des parents qui ont plutôt voulu me protéger sans trop raconter, des grands-parents qui avaient quand même un statut dans la société française complexe, des histoires qui ont pu être douloureuses. On va en parler par rapport à la guerre d'Espagne, ceux qui ont décidé de fuir pour leurs idées politiques, mais aussi parce que c'est un conflit qui ont été pas forcément bien accueillis au début en France. Il faut ramener ça dans le contexte. Tout ça est très compliqué. Et vous portez ça à un moment, à la troisième, voire à la quatrième génération. Et vous, vous voulez à un moment nettoyer toutes ces scories. Vous voulez avoir votre place ici. Puis quand vous rentrez dans le pays de vos grands-parents ou de vos parents, on vous regarde un peu comme un trop français. Waouh, tout ça est complexe. Et en même temps, tout ça est partout pareil. C'est la même histoire. À chaque fois. Parce que le départ, vous cassez quelque chose et vous avez toujours du mal à construire autre chose. C'est un entre-deux jusqu'au moment où vous trouvez, ou vos enfants, un équilibre. Ça s'explique pas, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, vos sœurs, par le bois de l'auteur, vos sœurs ont subi la double identité. Moi, vous l'avez compris comment je le dis. Et c'est ça, personne ne le vit de la même manière. Il y en a qui ont vécu l'immigration sans aucun souci. C'est passé un peu comme une lettre à la poste. Et d'autres qui vont le porter comme un poids toute leur vie. Une forme de nostalgie, de départ. Regardez quand vous discutez des fois avec des pieds noirs, y compris des enfants de pieds noirs, voire des petits-enfants, comme il y a une forme de nostalgie de quelque chose qu'ils n'ont même pas connu. La nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas connu.
Ils recréent des schémas qu'ils ont entendus à la maison.
Exactement. Ouais, mais c'est logique. Vous recréez toujours un moment, un environnement qui va vous donner le sentiment d'être chez vous. Et quand vous n'avez pas un chez vous, vous le fabriquez. Des fois de manière totalement mythologique. Et ça peut être un boulet que vous traînez à vos pieds.
C'est pour ça que la France se croit peut-être encore chez elle en Algérie, parfois.
Mais parce que ça fait partie de l'histoire de France. 130 ans d'histoire. Ah oui. Et les Algériens sont aussi un petit peu français. Regardez, vous prenez un match de foot, par exemple. Il est évident qu'à un moment, si l'Algérie ou la France ne va pas en quart ou en demi-finale, les Français ou les Algériens vont soutenir notre équipe. Cette histoire, c'est nous avons une histoire commune. Les mémoires sont différentes, les ressentis sont différents, mais l'histoire, on pourra dire tout ce qu'on veut entre nous ici, c'est la même. Nous avons une histoire commune. J'adore quand Léla Slimani ou Alain Mabokou disent, de toute façon, ce qu'il en reste, c'est déjà d'écrire français. Hein. Donc, vous voyez bien, quoi. Et puis, c'est pas des cigognes qui nous ont amené la langue française par hasard en Algérie, au Maroc ou au Congo. Tout ça, c'est notre histoire, en fin de compte. On va devoir apprendre à la digérer.
À propos de la langue, il y a aussi le réflexe, et c'est ce que l'on voit dans le roman d'Olivia Ruiz, et ce qu'on constate aussi, quelle langue parler ? La langue du pays d'où l'on vient, la langue du pays qui nous accueille, à quel moment peut-on garder ? Est-ce que c'est que quand on s'énerve ou qu'on parle entre personnes venant d'un autre pays, où on commence à... où on veut obtenir...
La langue du cœur.
On veut même obtenir, des confidences de l'an, en disant, je te rassure, je vais te parler espagnol, et tu là, à ce moment-là, tu vas vas t'ouvrir à moi et tu vas me parler, ou au contraire, se dire, ayons la politesse de la langue du pays qui nous accueille.
Les deux, mon commandant. Moi, j'ai une famille bretonne, par exemple, et mes grands-parents et mes arrière-grands-parents parlaient encore breton à la maison. Parce que c'était une manière de garder une tradition qui s'était perdue et parce que la République avait imposé d'interdire la langue bretonne à l'école. Et le fait de parler breton, c'était une sorte de révolution silencieuse. Pour d'autres, ça va être garder le lien au pays. D'autres vont s'interdire de le faire à la maison pour aider les enfants à faire des études. Donc, votre choix, en fin de compte, il n'y a pas un bon choix. C'est un choix qui est complexe. C'est un choix qui doit se trouver un juste équilibre entre est-ce que je garde des liens ou est-ce que je vais au contraire pousser mon enfant à l'école à totalement s'acclimater avec la langue. Et puis, à un moment, on redécouvre aussi la langue. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, troisième génération, oui, qui réapprennent la langue des grands-parents.
Oui. C'est une chose, la connaître et maîtriser, et être doué en langue et en connaître des tonnes, c'est une chose. Mais de l'autre côté, on peut comprendre aussi que des personnes arrivant au milieu de 4-5 personnes et de ne pas comprendre ce qu'ils se disent en ayant toujours un sentiment de « ok, donc je suis pas bien accueilli alors que j'ai le sentiment d'être de parler français, là il parle
avec un accent, on en a parlé tout à l'heure, l'accent c'est quelque chose qui est le dernier lien qui vous liera toujours à une forme d'origine quelque part. Les gens vont vous dire, mais t'as un petit accent toi, il vient d'où cet accent-là, il te ramène à quelle histoire?
Non mais il y a des Français qui vont vous dire, moi je me sens exclu parce qu'ils parlent arabe entre eux, ils parlent espagnol entre eux, ils parlent italien, et donc je suis en France, monsieur, on parle français.
Exactement.
Sauf que bizarrement, on est un peu moins choqué quand on parle beaucoup anglais, mais quand on parle arabe, c'est lié aussi au regard qu'on pose.
C'est un vieux regard colonial.
Non, c'est un vieux regard colonial. C'est pas une question de facilité. C'est-à-dire qu'on va tolérer plus facilement.
Ça s'est marché. Ça a fonctionné en Italie. Avec les Italiens il y a quelques années, avec les Espagnols aussi.
Ça a toujours fonctionné parce qu'il y a toujours l'autre étranger. En fonction de chaque époque. Je rappelle qu'on tuait les Italiens à la fin du 19e siècle parce qu'on les trouvait trop catholiques et incapables d'être assimilés. Donc, la colonisation a laissé une trace particulière. C'est qu'elle a fabriqué un statut particulier des individus. Être étranger, c'est une chose, mais être ex-indigène et étranger, c'en est encore une autre. Donc vous avez chez ceux qui viennent de l'ancien empire colonial français ou des Outre-mer, un double rapport à la fracture. C'est que d'un côté, ils ont été plus français que les autres, sans être vraiment français, tout en étant indigènes, et en même temps, ils connaissent la migration.
Oh là là.
Waouh, c'est complexe.
Et quand les Anglais parlent arabe, je ne raconte pas.
Il est passionnant, Pascal Blanchard, vous l'avez entendu, cet historien, il signe aux éditions du Cherche Midi, colonisation et propagande, le pouvoir de l'image. Merci mille fois. De quoi vas-tu parler, Tanguy Pastureau?
Je vais vous parler épidémie, il faut suivre. Il y a une nouveauté en 2022. Heureusement, je suis hypochondriaque, je vous tiens au courant. Voici la variole du singe.
La deuxième partie de la bande originale sur France Inter, c'est maintenant. Bah c'est maintenant. Un peu tard, mais c'est maintenant.
Non, voilà. C'est un peu tard. Vous avez le droit de parler de Roland Garros et de tout ce qui s'y passe. Et de tout ce qui s'y passe.
On dirait moi, c'est tout.
Avec les joueurs de Phénix, oui, bien sûr.
Non, on arrête là.
Elle
parce
revient
que, si on change de lettre, ça devient horrible.
Non,
mais calmez-vous.
Elle revient toute l'après-midi pour vous informer. Laetitia Gaillé, à tout à l'heure. Et puis à 13h, évidemment, le journal de... La bande originale avec Léa Cadeau-Bodetti, Morgane, Gabi Léan, Guillermo Guiz, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Olivia Wyss. J'ai raté un truc.
Ouais, t'as raté un truc, aussi, mais c'est préférable que vous l'ayez tous raté.
D'accord. En tout cas, elle l'a pas raté, elle a réussi. Écoute la pluie tomber avec ces moments où finalement tout le monde se mêle de tout, mais c'est le résumé de la vie. La vie est faite de rencontres, elle est faite de moments où on se retrouve extraordinairement seul, abandonné, et où finalement la présence des autres va faire réagir par des histoires d'amour, par des histoires de conflits, par des histoires de règlements de comptes, des histoires de famille aussi, des histoires carrément de police ou de poursuites, de magouilles, mais toutes les vies s'entrechoquent à Marseillette, lieu donc de cette vie dans le sud de la France, avec cette population, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vient d'Espagne, avec cette culture, avec cette vie, cette vivacité, mais aussi avec ce côté, on va pas déranger, on va pas trop en dire non plus, on essaie de garder des secrets, même si ça marche pas, on croit garder des secrets, tout le monde est au courant.
Voilà, et puis se faire le plus petit possible, toujours, qu'évoquait tout à l'heure
Pascal Blanchard.
Pascal, voilà.
Courber les chines.
Voilà, et puis voilà, essayer pour se faire accepter, forcément nier une partie de ce qu'on est, alors que c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. Moi, je suis hyper régionaliste. Je comprends rien au breton, mais j'adore l'entendre parler, tous les langages. Je comprends un peu l'occitan. L'occitan est presque aussi présent que l'espagnol. Alors,
les langues, la musique, la danse, l'amour, tous ces éléments sont présents. L'alcool aussi, il y a des moments où ça picole.
Bah, quand ça se passe dans un bar, forcément.
Le prétexte.
Non, mais forcément, bien sûr.
Ça commence avec la sangria d'ailleurs. Ça commence avec une forme presque de racisme avec. Oui. Non, monsieur, ici, on sert pas de ce genre de,
voilà,
de produits
quand
des Espagnols.
Quand on arrive au moment de la fermeture, c'est quelque chose. J'ai souvent vu les miens s'agacer. Du gars qui débarque à 23h et qui demande un truc.
Qui n'existe pas à la carte.
Bah, bien sûr. Donc effectivement, il y a ce truc de... Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on renie ce qu'on est, mais aujourd'hui, 2022, on va voir le fameux Manu, il n'y a pas très longtemps, à la pétanque à Marseillette, le Manu du livre qui existe vraiment. Et quelqu'un l'interview et lui dit alors donc vous appelez Manu Andrés, Emmanuel Andrés, vous êtes espagnol. Non, moi je suis née à Carcassonne. Comme une protection. Ah. Alors voilà, comme si il y avait ce truc ancré probablement des parents quoi.
Mais quand vous allez chercher comme nom de scène et nom d'artiste, Ruiz, c'est aussi pour dire, voilà mes racines, je les revendique, je les mets en avant. Et
c'est un cadeau à mes grands-mères, ni plus ni moins. Voilà. Je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça de mis sous cloche dans leur vie, comme tout le monde, on a envie de sauver ses parents, on a envie de sauver sa famille, on a envie qu'ils soient au mieux, le plus heureux, le mieux possible, le plus eux-mêmes. Donc voilà, elle part
blanc,
de là.
Blanc, c'était trop...
J'ai qu'un grand-père français, moi, sur mes 4 grands-parents. Du coup, il n'y avait pas la volonté de représenter cette partie-là qui était tout à fait bien intégrée et qui était, j'allais dire, pas passée à côté de sa vie, pour le coup.
Ouais. Puis c'est musical.
Il y a une dette là-dedans, dans ce que vous racontez. Il y a une forme de dette.
Mais bien sûr.
Dette ou reconnaissance, parce que dette, il y a...
Ou résilience à retardement,
Il y a une forme d'exutoire, il faut aussi soigner quelques plaies.
Les leurs, du coup, parce que moi, tout
va bien.
Moi, je suis née française, tout a été tellement facile grâce à leur combat, eux, comme tous les petits-enfants d'immigrés, ou enfants d'ailleurs.
Écoute la pluie tomber avec cette scène formidable d'une maman qui est enceinte, prête à accoucher et qui entend la pluie violente, le tonnerre, l'orage, et qui pose la main sur son ventre gonflé comme pour se rassurer elle-même, redescendre en termes de rythme cardiaque, la respiration, mais rassurer le bébé pour pas qu'il n'ait peur, qu'il n'ait pas peur de l'orage, de la pluie qui s'abat sur la maternité au moment où ça arrive. Elle est formidable aussi cette
chez
cette
nous scène. Les bébés veulent pas sortir. Ils viennent toujours quelques...
Oui, puis elle, ça l'arrangeait de rester un peu plus longtemps
après,
aussi à ce moment-là.
Voilà. Et en l'occurrence, c'est vrai que cette mise au monde va mettre probablement cet enfant aussi face à un danger. Donc, je pense qu'elle a envie
celui d'un père violent. Tout est, y a beaucoup de choses qui prennent écho, et puis chacun peut y retrouver comme ça des bouts, des fragments de la vie de l'un, de la vie de l'autre. Même vous êtes servi dans votre imaginaire, mais aussi dans une réalité multiple.
Dans l'actualité, c'est vrai que je pense que beaucoup de femmes comme moi se sont senties terriblement impuissantes face à la détresse de leurs consœurs vis-à-vis des violences qu'elles subissaient. Et c'est vrai que ça donne envie d'évoquer ce genre de choses, parce qu'on se sent tellement, tellement désarmé face à la détresse.
Que de le raconter est une chose qui peut déjà aider. Et, ouais, absolument, et rendre service aussi. C'est chez Lattès, Jean-Claude Lattès. Écoute la pluie tomber, Olivia Ruiz. Vous écoute, Tanguy Pastureau. Tomber sur terre.
Hier, j'étais bien, comme tous les dimanches, parce que j'ai une passion qui est ne rien foutre. Ma deuxième passion, c'est branler que dalle. J'étais apaisé, je regardais du haut de la terrasse de mon penthouse le peuple en contrebas en train de se faire la bise. Je leur lançais des petits cailloux, comme vous m'avez appris à le faire, Nagui.
Oui.
Et en même temps, je me réjouissais de voir la vie reprendre ses droits. Ah, qu'on est bien sans le Covid. Hier, je crois que sur 20-30 secondes, j'ai été heureux. J'ai levé la tête, les nuages avaient la forme du corps de Gabriel Attal, les oiseaux piaillaient, tout était beau, fluide. J'ai fait un signe de la main à mon voisin de rooftop, Xavier Niel, qui m'a dit pas mal ta piste d'atterrissage d'hélicoptère. J'ai répondu avec tes impôts, mec. Hein, je romance un peu pour que Daniel Morin, qui a négocié le salaire pour ses chroniques en 94, à l'époque où il n'y avait pas de limite, puisse se projeter. Hein, bref, je me sentais aussi bien que Kylian Mbappé quand on lui parle de la hausse du prix de l'essence et qu'il répond sincèrement, ça va, quoi. Hein, quand soudain, mon 06 s'est mis à vibrer. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un SMS de ma sœur, mais j'ai pas de sœur, donc je me suis dit, ça doit être autre chose. Hein, et en fait, c'était une alerte de BFM TV intitulée Variole du singe, ça inquiète les scientifiques. Là, j'ai demandé à Xavier Niel, Xav, que sais-tu sur la variole du singe? Il m'a répondu, attends, je démarre ma box orange, je fais une recherche sur le net. Je lui ai dit, mais t'es pas chez Free? Il m'a répondu, non, non, ça marche pas, le service client est pourri. Bon, là, je redescends dans mon salon. Laetitia Casta me dit, qu'est-ce qui t'arrive, bébé, t'es tout pâle? Je lui dis, non, non, mais que faites-vous chez moi, madame? Elle me dit, bah, tant qu'à t'inventer une vie pour tes chroniques, fais ça en grand. Elle crie, allez, les filles. Et là, sort des placards Sophie Marceau, Monica Bellucci et Faudel qui me dit, je suis plus nulle part, t'as peut-être au moins une place pour moi dans une chronique. Bon. Alors, je tape sur Google Actu variole du singe. Et là, je réalise que les médias ne parlent que de ça. Elisabeth Borne est désespérée. Elle est 40 millième dans le classement des recherches Google derrière les termes Rubik's Cube et Soca Dance. Donc, après le Covid, parce qu'on a eu Delta, Omicron, BA1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà-t-il pas qu'on va se taper la variole du singe, ces bêtes qui se grattent le huc et bouffent des cacahuètes comme le supporter de foot. Donc, je remonte sur mon rooftop. Je crie à l'attention de Dieu, mais pourquoi? Oui, dans les années 2000, on a tous un moment porté des pantacours. Mais n'es-tu pas censé nous pardonner dans ta miséricorde? Même Hillary a pardonné à Bill. Donc j'ai passé le reste du dimanche à me documenter sur la variole du singe. J'ai pas envie de la choper parce que bon, ça provoque de la fièvre. Bon, ça va. Des douleurs musculaires. Ça va, à l'âge que j'en ai naturellement. Hein, la première chose que je dis le matin, c'est aïe. La deuxième, c'est sa mère. Et là, il y a Faudel qui me dit, j'aime pas quand tu es vulgaire. Mais la variole du singe provoque aussi une éruption d'énormes boutons remplis de pus. Mmh, les gosses non. Vous voient, ils vous prennent pour un Pokémon. Or, moi, je refuse d'avoir des gros boutons. Il y a 35 ans, j'ai vaincu l'acné. C'est pas maintenant que la maturité me donne ce côté irrésistible pour me payer la tronche que j'aurais dû avoir en 87 si mes parents avaient pas claqué leur livret A dans l'achat de Biactol. Je veux dire, le Covid, il filait une bonne claque dans la tête, mais au moins, on reste et sexe. Ah ben j'ai horreur des maladies qui dégradent physiquement. Vous vous rendez compte que dans les pays où il y a encore la lèpre, parfois des gens perdent leur clé de bagnole, hein, se disent tiens ben c'est bizarre, je les avais dans la main, et là ils réalisent qu'ils ont aussi perdu leur main. Ils se retrouvent à tenter de courir après le chien qui est parti avec, et là ils réalisent qu'ils ont aussi perdu leur pied. Je veux dire, et je me disais aussi que j'avançais pas. Alors bien sûr la variole du singe, rien de tout ça, on a juste d'énormes pustules. Voilà. Mais pour tout ce qui est dating, du coup on est obligé de décaler, hein, parce que si vous branchez un fakir en soirée qui vous invite à dormir sur sa planche à clous, vous avez les pustules qui crèvent. À un niveau romantisme, c'est l'équivalent de porter pour sa nuit de noces un pyjama en pilou-pilou. Alors sinon, les scientifiques sont perplexes. En une semaine, hors Afrique, il y a eu plus de cas de variole du singe qu'entre 1970 et début mai 2022. Ça se propage. Voilà, d'ici demain, on aura tous la tronche en digicode. Quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ça se transmet entre humains par contact prolongé et échange de fluides. Oh, mon Dieu, Guillermo. On va finir par le perdre. C'est celui de l'équipe qui a une vie sexuelle, j'explique pour l'auditeur.
C'est lui, ouais,
Alors, voilà, exemple en Belgique, 3 cas ont été recensés à l'issue d'un festival de mode fétichiste. Wow. Alors c'est comme la Fashion Week, sauf qu'il n'y a pas Kim Kardashian avec en laisse son chihuahua, mais Monique avec en laisse son mari, donc Jean-Bernard. Et en Espagne, l'un des foyers de contamination est un sauna coquin. Là aussi, ça ressemble au sauna normal, sauf qu'il y a toujours quelqu'un pour vous demander si vous avez chaud, et si vous répondez non, ça va, on dit vite que vous n'êtes pas dans l'ambiance. Bon, c'est ce que j'ai dit à Xavier Niel, d'ailleurs, qui était dans son jacuzzi et m'invitait hier à le rejoindre. Je lui ai dit c'est trop risqué, on fait une visio. Il m'a répondu si t'as frit, ça va pas marcher. Bon, vous la sentez, la nouvelle épidémie qui se profile? Alors il paraît que c'est dû au fait qu'on a détruit la biodiversité. Il n'y a plus de barrière protectrice entre nous et les animaux. Oui. J'ai dit ça à Sophie Marceau, elle m'a répondu Tanguy, tu sais combien je demande pour figurer dans ta chronique là? Donc je me suis tourné vers Faudel.
Merci Tanguy Bassio. Olivia Ruiz, écoute la pluie tomber chez Lattès, l'événement culturel de cette semaine. Quoi d'autre, Leïla Kadoboudet?
Si je vous parle de Nouvelle École, je parle de quoi?
Un podcast.
C'est un programme.
Nouvelle École.
Pas radio.
Télé.
Télé. Programme télé, absolument.
Service public.
Pas service public.
Arte. Télé-réalité.
Non plus.
M6.
Quand je dis télé.
Plateforme.
Plateforme, ouais. Ah.
Plateforme. Des cours donnés sur Netflix.
C'est musical. Et c'est Netflix, absolument.
Des cours de chant.
Mais
un télécrochet.
C'est pas des. Ouais, absolument. Un télécrochet qui est lancé par Netflix pour trouver la nouvelle star du rap. On aura donc.
Ça s'appelle comment?
Nouvelle école. On aura trois rappeurs qui vont sélectionner des talents dans leur ville respective. SCH à Marseille, Niska à Paris et Shai à Bruxelles. L'idée, ça va commencer le 9 juin sur Netflix. Et l'idée, c'est de décrocher, enfin de trouver un peu la nouvelle pépite rap. Est-ce que vous êtes hyper au point en rap, Olivia ?
Hyper au point, j'irai pas jusque là. Ouais. Mais je connais mes classiques. Ouais. Ouais. Dans les petits nouveaux, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui me touchent plus que d'autres. Demi-portion, par exemple. Ouais. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez dans le rap aujourd'hui ? Le rap d'aujourd'hui ?
Ah, alors c'est vrai que je suis un peu old school, moi, ouais. Parce que même les choses d'aujourd'hui que j'écoute sont très teintées 90 ou 2000. Mais
dans le rap, en tout cas,
c'est toujours
dans
un peu hybride. Ça va être une Rosalia, parce qu'il y a quelque chose toujours de très ironique. Elle va nous citer Versace et Fendi dans un morceau, mais si on
comprend les paroles,
voilà, bien sûr, voilà. On va pouvoir. Non, mais c'est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air.
Il y a du second degré.
Voilà, et j'aime beaucoup cette façon d'aborder des choses très concrètes avec une forme d'ironie, avec une belle distance.
Ouais, une dénonciation qui passe pas nécessairement par une sorte de choc frontal, quoi. Une petite façon de regarder sur le côté.
Un petit peu plus pervers.
Ouais. Ce genre de programme, ça vous tenterait de regarder Nouvelle École, par exemple, sur Netflix, pour assister à la. Alors compte tenu de votre histoire aussi, d'assister quoi à l'éclosion d'un artiste dans un programme télé.
Alors sur le papier, je regarde pas beaucoup d'émissions musicales, hein, faut le dire, mais je me souviens d'une avec des danseurs de hip-hop, où c'était Joe Star, je crois, qui était jury ou des rappeurs et danseurs de hip-hop, je sais plus exactement, qui m'avait attrapé, et que j'avais suivi un long moment, mais bizarrement, je suis pas très cliente de musique à la télé.
Revenons à Écoute la pluie tomber, Olivia Ruiz, chez Lattès, avec dans ce roman des situations qui ont nécessité à la fois, j'imagine, des recherches familiales. Est-ce que vous posez des questions aux membres de votre famille pour connaître un peu des histoires cachées ? Et est-ce que vous avez fait des recherches, par exemple sur la tauromachie, des recherches carrément en bibliothèque ou documentées ?
Oui, absolument. Ben oui, énormément sur la tauromachie, sur les femmes en milieu carcéral sous le franquisme.
Il y a les postérieurs et les antérieurs.
Voilà,
aussi, c'est ça.
Celles qui ont été incarcérées avant Franco et celles une fois qu'il était au pouvoir pendant de bien trop longues années. Pour la vie sur le paquebot d'Escuto aussi, je m'arrachais les cheveux parce que j'écrivais une scène sur quelque chose, par exemple, sur la piscine. J'avais trouvé un paquebot qui existait vraiment pendant les fameuses années. Et puis, paf, il n'y a pas de piscine. Repart chercher un paquebot qui a existé pendant ces années, qui correspondait. Voilà. Et là, et c'est là que c'est savoureux. Miracle. C'est que tout d'un coup, on en trouve un qui a transporté Marilyn, la Joconde, avec une petite anecdote.
C'est incroyable, cette histoire de la Joconde.
Et
aussi,
là, pour le coup, c'était l'éclat. Autant la tauromachie, ça faisait vraiment, c'était assez douloureux, certaines images très violentes à recevoir, mais il fallait passer par là. Autant le paquebot, un vrai voyage.
Et l'histoire de la paire de chaussures
sur le rideau,
c'est vrai.
Tellement grande, ça, il faut raconter cette histoire.
C'est vrai. Alors
pour faire croire que le mec est costaud derrière le rideau.
Voilà, il y avait un rideau qui cachait la Joconde quand elle a été transportée sur le SS United States. Et pour laisser imaginer aux gens qu'il y avait un énorme colosse derrière ce rideau pour la garder, on avait mis une très très grande paire de chaussures qui dépassait du rideau.
C'est génial.
Voilà. Et apparemment, ça a fonctionné. Hein,
taille 58. Le reste doit être très très grand aussi, donc j'y vais
bien
pas.
Bien sûr, voilà.
Le tableau est tout petit. Écoute la pluie tomber, Olivia Ruiz chez Jean-Claude Lattès. Voici Daniel Morin, le héros du jour.
Absolument, monsieur. Alors, chers amis, aujourd'hui, mon héros, aurait dû être une héroïne en la personne de notre première ministre. En effet, Elisabeth Borne a déclaré, concernant la réforme des retraites, « Je promets de ne pas mentir aux Français ». Alors oui, une déclaration comme ça, les amis, c'est beau, c'est noble, c'est surtout très inattendu de la part d'une personnalité politique. Du coup, ça mérite le titre de héros du jour. Mais malheureusement, je me vois dans l'obligation de refuser ce titre à Elisabeth Borne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que c'est faux, c'est un mensonge, elle sait que c'est impossible de ne pas mentir. Le mensonge fait partie de la fonction. Ne pas mentir, c'est n'importe quoi. Tu imagines la conférence de presse ? Madame la Première Ministre, avec la réforme, est-ce qu'on va se faire entuber ? Oui,
Totalement, intégralement. Non, c'est pas possible. Notre volonté, noble volonté, pardon, madame, mais irréalisable. Du coup, mon héros du jour est un homme dont j'ai regardé ces dernières semaines les exploits. Il s'agit de James Bond, dont l'intégralité de l'œuvre est disponible sur Canal. Et en dehors des cascades et des vodka martini au shaker, pas à la cuillère, j'avais oublié à quel point James Bond chope rapidement toutes les nanas qui croisent sa route. C'est hallucinant. Toutes les espionnes qui, au début de chaque aventure, veulent sa mort, quand elles le rencontrent, elle couche. Et elle couche pas au bout du deuxième ou troisième rendez-vous, hein, après un apéro chez Flunch ou une entrecôte au Buffalo Grill. Non, elle couche tout de suite. James, il emballe en 10 secondes. Alors, il y a les espionnes, mais aussi les collègues qui disent « Moi, coucher avec James, jamais, c'est un coureur. » Il arrive dans le bureau, bim, le plan suivant, ils sont à poil dans un hôtel. Et puis, pas de fioritures. Bonsoir Katharina du KGB, je m'appelle Bond, James Bond. Oh non, ne m'approchez pas, j'ai ordre de vous tuer. Chut. Détends-toi Katharina.
Oh James.
Coquine. Tu imagines James Bond en vrai, dans la vie de tous les jours? Bonsoir Madame la Boulangère, je m'appelle Bond, James Bond. Oh non, ne vous approchez pas, j'ai du pain au four. Chut. Oh. Relaxe-toi ouais. La boulangère.
Oh James.
Coquine. Rien ne l'arrête, James. C'est sa force. Bonsoir, Elisabeth Borne. Je m'appelle Bond. James Bond.
Oh, non, ne vous approchez pas. Je travaille sur la réforme des retraites.
Calme-toi, Zaza.
Oh, James.
Coquine. Même ici, à la BO, on pourra en faire les frais.
L'image est...
Bonsoir, Morgane. Je m'appelle Bond. Non. James Bond.
Oh, ne vous approchez pas. James Bond, je ne vous aime pas.
Relaxe-toi, Morgane.
Oh, James.
Coquine. Inarrêtable, James. Et c'est pour cette raison que, s'il y a consentement, bien sûr, alors... c'est pour cette raison que James Bond est définitivement mon héros du jour.
Merci, parce que celle qui craque et qui fait craquer tout le monde, c'est Carmen, quand même. Elle est... elle aime la vie.
Elle aime la vie. Je sais pas si elle fait craquer tout le monde, mais elle, en tout cas, elle s'octroie.
Elle s'interdit rien. Elle veut même une chambre avec une porte qui donne sur l'extérieur pour pouvoir faire entrer oui, ses amants discrètement.
La famille magique et poison à la fois. Hein. C'est voilà. Oh, mais non mais dis donc.
En plus pour une fois, je dis rien.
Les têtes de coquins, Leïla et Nagui là.
Ça c'est pas les derniers.
Écoute la pluie tomber, mais c'est absolument passionnant cette galerie de portraits, c'est attachant. On finit par avoir la bande de potes que l'on peut choisir au milieu de tout ça. Quand je dis potes, c'est garçons, filles, évidemment tout mélangé, mais on a surtout envie d'en faire partie. C'est-à-dire on les voit vivre, on les imagine, on les entend, ça sonne, ça claque.
C'est un beau compliment.
Non, mais c'est passionnant. Mais c'est
on
vraiment...
entend les personnages parler, on les entend parler, on entend votre narratrice penser. Aussi.
Je m'enregistre beaucoup au dictaphone quand je perds mes personnages. Je fais leur voix.
Ouais, on les entend.
À propos de voix, on vous pose évidemment toujours cette même question. Vous avez fini par répondre que vous prépariez un nouvel album. Mmh. Il y a déjà des titres prêts, si oui.
Vous avez fini par dire je voulais confier à vous, que à vous. J'en ai pas du tout parlé.
Donc il y a un album.
Dans The Artist, d'ailleurs. Et effectivement, oui, je suis très contente de retrouver le studio, des nouveaux compositeurs, je m'amuse.
Bah, ceux qui ont
beaucoup.
Gagné The Artist, justement, Rookie, Nino.
Voilà, Nino Vella, exactement. On a enregistré une dizaine de maquettes, on va continuer cet été, mais c'est vrai que j'ai hâte, en fait. Incroyablement.
De quoi alors? De retrouver la scène ou de publier l'album?
Les deux, de retourner en studio, d'accord. De repartager ça, de recréer un son, comme à chaque fois, puis de repartir en tournée, cool. Ouais.
Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Des excuses à présenter Daniel Morin.
Absolument. Déjà, désolé pour Monsieur Ruiz, le papa d'Olivia, qui
Monsieur
n'a pas
Blanc,
réussi. Même.
Monsieur Blanc, il s'appelle Blanc.
Monsieur Blanc, qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du livre de sa fille, peut-être par excès de pudeur. Oh, vous savez, j'en connais certains autour de la table, qui s'appellent Nagui, et qui, à l'inverse, ont lu plusieurs fois le livre. Oui, crois qu'après 300, on peut dire plusieurs
passages.
Fois. Pour certains passages, qualité, je sais pas si c'est mieux. Tu finiras en taule, ça tire. Désolé pour monsieur Cadour, qui a découvert ce matin que pour les vacances cet été, ce sera du côté de Nîmes, Arles, la Camargue, et peut-être un peu l'Andalousie. Je serai vous, je m'achèterai un petit costume de torero, et je préfère dans la chambre une porte qui donne
Mais
sur l'extérieur.
Déjà.
Désolé pour les clichés qui n'ont pas été mis en lumière dans l'émission de ce matin. Alors, si je fais le point. On a eu la Bretagne et la pluie, les you-you et le Maghreb, l'indolence alcoolisée des îles et des dom-toms, le machisme et l'esprit méditerranéen. Donc, si je rajoute les Belges et la pédophilie festive et l'amour des Égyptiens pour les régimes autoritaires, voilà, je crois que j'ai cité tout le monde.
On a fait le tour, ouais.
Alors, on fait le tour.
Écoute la pluie tomber, Olivia Ruiz. Bravo déjà pour ce deuxième livre. C'est une réussite et on souhaite le même succès que pour le premier livre encore. Demain, nous recevrons Isabelle Carré pour son nouveau roman. Passez une très belle journée. À très vite, Olivia. Les carnets de campagne, c'est maintenant. Et où, d'ailleurs, Philippe Bertrand?
Salut les
Bonjour.
Amis.
Salut Philippe.
Bonjour. Je vous emmène dans un des plus petits départements de France qui fête ses 100 ans.
Le Vatican.
Voilà, ouais, c'est ça. Merci, mon père.
Bon, c'est le plus petit département de France.
Sois béni. Non, c'est le territoire de Belfort.
Ah, voilà.
Très bien.
Voilà, voilà.
Bonne balade, Philippe. Bonne émission.
Salut.